Bienvenue sur la page Bible Espoir. Nous sommes heureux de vous y accueillir et nous vous souhaitons une bonne écoute.
Bonjour à tous. Vous n'êtes pas arrivés en retard, c'est moi qui suis en avance. Voilà. Alors, je vous propose que nous fassions une lecture qui va faire suite à notre rendez-vous de la semaine passée. Vous vous souvenez sur le sujet que nous avions pris? Alors, je vais le rappeler, je vais donner un petit récapitulatif, mais nous allons prendre deux textes différents pour amplifier un peu l'étude, parce que c'est une étude. Et je vous propose donc, dans le livre des Galates, Galates, chapitre 5, verset 1er. Et nous prendrons ensuite dans l'évangile de Jean un autre passage. Alors, épître de Paul aux Galates, chapitre 5, verset 1er, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis, demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Et je voudrais retenir simplement cette première parole. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. L'apôtre Paul s'adresse à des chrétiens. On est bien d'accord, ce sont des croyants, des gens qui ont fait une expérience avec Jésus, qui sont nés de nouveau, et il rappelle que la liberté nous a été octroyée à cause du sacrifice de Jésus. Nous sommes libres. Il nous a affranchis. Première lecture. La deuxième, nous allons la faire dans l'évangile de Jean, je vous ai dit il y a un instant. Et c'est celle que nous avions lue précédemment. Donc Jean, chapitre 1er, verset 17. Et nous rappellerons en substance ou brièvement eh bien ce que nous avons déjà commencé la semaine précédente. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Deux dispensations, il y a là deux alliances, nous pourrions dire, une qui est légaliste et l'autre qui est véritablement, eh bien, tout simplement la grâce de Dieu. Alors, nous allons donner quelques informations, ou un rappel plutôt, sur ce que nous avions vu précédemment. Et il est question finalement, eh bien, de liberté. Il est question de grâce et de vérité. En ce qui concerne la liberté, eh bien, nous allons justement articuler et donner une articulation à ce que nous avions vu précédemment. Et la grâce, c'est une faveur. Alors on l'accepte ou on l'accepte pas, un cadeau, on peut le recevoir. Mais je pense qu'on est dans les dispositions ce matin à recevoir ce cadeau de Dieu. Et cela nous conduit à la vérité. Et nous sommes dans la vérité, dans ce que Jésus nous enseigne. Ça ne veut pas dire que Moïse a donné des erreurs, où il a induit finalement, eh bien, le peuple d'Israël en erreur. Mais nous l'avions souligné à travers un autre texte, il nous est dit que la loi de Moïse, la loi des prophètes, la loi de l'ancienne alliance, était comme un pédagogue, c'est-à-dire un précepteur, un instituteur, un professeur qui nous préparait à autre chose, une autre dimension. Et ça, c'est bien de le rappeler. Et finalement, ça fait écho, en quelque sorte, avec ce que Jésus nous dit dans son introduction à son apostolat, à son ministère, dans l'évangile de Luc, au chapitre 4, quand il nous dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, et il m'a oint, naturellement, pour annoncer une bonne nouvelle, mais en particulier pour proclamer aux captifs la délivrance, puisqu'il est question de liberté, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour ceux qui ne voient pas encore. » Parce qu'on peut être chrétien et puis être encore dans un flou en ce qui concerne le plan de Dieu. Non pas au niveau du salut, non pas au niveau du pardon de nos péchés, mais de la manière dont nous pouvons nous comporter, quelle est la bonne attitude pour plaire à Dieu. Est-ce que c'est une attitude légaliste ou une attitude tout simplement d'amour et de grâce? Et malheureusement, nous le constatons dans bien de nos églises même évangéliques, on s'aperçoit que l'on vit beaucoup plus dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. Or, je rappelle, la loi a été donnée par Moïse, mais finalement, eh bien, la liberté, la vérité et la grâce nous sont données par Jésus-Christ. Nous ne sommes pas juifs. Enfin, peut-être, mais toujours est-il que maintenant nous sommes chrétiens, parce qu'il y a des chrétiens, des juifs qui deviennent chrétiens. Donc ils sont rentrés dans une autre dimension pour proclamer aux captifs donc la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue et donner la liberté aux opprimés. Et en matière d'oppression, quelquefois, peut-être par une mauvaise conception de l'Écriture sainte, peut-être par un enseignement qui a beaucoup plus tendance à marquer dans des obligations, dans des contraintes, des règles humaines ou religieuses, que peut-être dans un épanouissement auquel nous sommes appelés, auquel nous sommes conviés. Donc, c'est une reprise que nous faisons ce matin, et je dirais que l'Écriture sainte ose cette comparaison, elle est tardie, mais elle est biblique, entre le corps humain, on en a parlé la semaine dernière, et le corps de Christ. Si vous lisez dans Éphésiens, il nous est dit que l'Église, c'est le corps de Christ, et le corps de Christ, c'est l'Église. Or, l'Église se caractérise, ou peut-être le dire, se singularise beaucoup plus par la foi et la grâce. Voilà. Les Juifs avaient des ordonnances, ils avaient des préceptes, ils avaient toutes sortes de choses, et en quelque sorte, pour plaire à Dieu, il fallait se soumettre à tout cela, et cela nous est rappelé, un seul commandement enfreint sur les 10, ça annulait tout le reste. Alors, c'était une course à l'effort, une course au mérite, une course en quelque sorte à être toujours le premier, le meilleur, et encore le premier, quelque part il devenait le dernier parce que c'était impossible de satisfaire complètement et totalement, parfaitement aux exigences de la loi. Donc le corps humain d'un côté, le corps de Christ, l'Église, et la foi et la grâce présentés de cette manière. Avant d'aller plus loin et d'aller au cœur de notre méditation aujourd'hui, notre constitution physique humaine, je le rappelle, repose sur une ossature, c'est-à-dire finalement une constitution solide et qui est comparée à la loi. C'est ce que nous avons dit la dernière fois. Le principe, c'est un principe rigide, l'ossature du corps. Ah bien sûr, parce qu'autrement, on l'a dit, je ne vais pas le répéter, mais nous serions tous des invertébrés, imaginez-vous ce que ça pourrait donner. Voilà. Donc, comparé à la loi, qui est quand même un principe rigide et de soutien nécessaire. Et d'ailleurs, Job le dira, et j'ai cité ça la dernière fois, il dira, et quand il priera Dieu, il dira à Dieu, « Mais tu m'as revêtu de peau, et tu m'as tissé d'os et de nerfs. » Ça, c'est ce que nous avions vu. Et nous allons rapprocher deux principes complémentaires nécessaires à la vie. Alors, on le trouve dans la vie sociale, on en a parlé, les codes de route, les codes civils, etc., tout ce que vous voulez, à la vie sociale, à la vie morale, mais ce qui nous intéresse, c'est surtout un principe, une comparaison avec la vie spirituelle, et ça, c'est important. Donc, il y a la loi de Dieu, intangible, qui est quelque chose de rigide, je le rappelle, et de l'autre côté, la foi et la grâce, qui finalement, ne s'excluent pas l'un et l'autre. Mais quand Jésus... on lui posera la question quand il enseignera dans le sermon sur la montagne. Il dira cette parole, « Je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais je suis venu pour lui donner, la spiritualiser. » Et aujourd'hui, nous ne pouvons pas faire l'impasse, nous en tant que chrétiens, sur cette parole de Jésus, parce que la loi n'est pas abolie. Mais par contre, elle a été confirmée, elle a été vivifiée, et elle a été spiritualisée. Et ça, c'est l'esprit dans lequel nous devons vivre notre vie chrétienne. Et c'est ce que Dieu attend, en quelque sorte. Il l'attend pour une bonne raison. Parce que si nous sommes encore dans une conception ancienne de nos efforts, de nos mérites, etc., etc., comme l'étaient les pharisiens, ça veut dire, écoutez bien, frères et sœurs, et je l'affirme, ça veut dire que Jésus est mort pour rien. Parce qu'il est mort pourquoi ? Il est mort parce qu'on ne pouvait pas satisfaire la loi. Il est mort parce que nous ne pouvions pas être justifiés par nos bonnes œuvres ou nos œuvres bonnes. Mais Jésus est mort parce que c'était impossible pour nous. Donc, là prend toute la dimension de la rédemption qui est en Jésus-Christ, et nous recevons cette rédemption, non pas par nos efforts et nos mérites, mais nous recevons par la foi, parce que nous croyons que Jésus est mort à notre place. et que de cette mort, eh bien, nous avons la vie, puisque lui-même est ressuscité, et nous sommes ressuscités par la nouvelle naissance, en quelque sorte. Ce n'est plus une dimension religieuse morale, c'est une dimension spirituelle par la nouvelle naissance, et ça, on le comprend. Mais fallait-il le rappeler? Donc, l'Ancien Testament, eh bien, préconise la loi, et le Nouveau Testament, la foi et la grâce. Alors, ceci dit, nous allons aller un petit peu plus loin. Nous allons justement, eh bien, mettre en évidence le second principe que nous avons vu la fois dernière. La loi, maintenant, nous allons parler de la grâce, de la vérité, de la liberté qui nous est donnée par Jésus. Alors, si la constitution osseuse de notre corps, eh bien, n'était que fermeté, et elle l'est d'ailleurs, mais on va le voir sur le plan spirituel, et rigidité, les hommes seraient, ou les chrétiens seraient que des automates en quelque sorte. On fait ceci, on fait cela, ça serait un conditionnement, ça serait mécanique. Et nous serions réglés comme des marionnettes. Dieu dit, nous faisons ceci, nous faisons cela, etc., etc. Bon, il y a quelque chose qui manque. Nous serions sans souplesse, nous serions sans douceur et sans tendresse, donc sans amour. Et tout le principe de l'Ancien Testament, c'était l'obéissance. Maintenant, c'est l'obéissance, mais dans l'amour. La justification, avant, il s'agissait tout simplement de se conformer à ce que Dieu dit et d'obéir, en quelque sorte une discipline, hein, réglée, naturellement, mais maintenant c'est autre chose. Puisque vous avez remarqué que c'est véritablement l'éclosion et l'épanouissement dans le Nouveau Testament de l'amour. C'est ça ce qui nous est donné. Et Dieu attend que nous soyons finalement à son écoute, que nous puissions lui obéir, non pas par devoir, mais par amour. Et quand on fait les choses par amour, c'est très facile. Ce n'est pas une contrainte, on le fait de cœur. On le fait simplement parce qu'on aime. On le fait comme on pourrait le faire pour un être humain, mais pour Dieu, c'est encore une autre dimension, naturellement, il s'y attend. Alors, Dieu a créé l'harmonie dans le corps humain en mettant nos os et ensuite de la chair, des muscles, des formes agréables. Et on avait fini sur la question, par exemple, l'expression du sourire, en quelque sorte, tout simplement. Et il a donné, en raison de cette constitution sur une ossature, eh bien finalement, eh bien ces muscles, cette vie, et c'est ce qui donne la vie. De même, l'harmonie existe dans le corps de Christ, dans ses institutions divines. Le monde spirituel n'est pas fait seulement que d'une ossature rigide qu'est la loi. C'est là un aspect des plus négatifs que nous pouvons rencontrer dans le monde chrétien. Il n'y a que la loi qui compte. Tu n'obéis pas, t'es perdu. Tu ne fais pas ceci, tu ne fais pas cela. Et Paul le dira d'ailleurs dans les Philippiens, si mon souvenir est bon, ou c'est dans les Colossiens plutôt, il dira cette parole, ne goûte pas, ne mange pas, ne fais pas ceci, alors à ce moment-là, à ce tarif-là, vous ne vivez plus. On est d'accord. Parce que c'est une discipline, voilà, c'est quelque chose qui empêche la vie de s'épanouir. Donc la loi, et c'est souvent ce que nous ressentons parfois dans les églises, cet aspect négatif. Alors, si nous le ressentons, les gens qui viennent de l'extérieur, comment ils peuvent le ressentir? Ils ne veulent pas en entendre parler. Hein. Tout ce fait religieux, souvent, est constitué de lois, que ce soit dans le christianisme, dans l'islam, dans beaucoup de choses. Il faut faire ceci, il faut faire cela, et... C'est souvent très rébarbatif et c'est souvent répulsif même. Et ça, on le comprend et c'est ce qui fait finalement que, eh bien, le régime doit être changé, particulièrement dans l'évangélisation et même dans notre vie à nous et entre nous d'ailleurs. Et beaucoup s'y arrêtent et butent sur ce fait-là. La loi sans la grâce, qu'est-ce que c'est? L'obéissance sans l'amour, qu'est-ce que c'est? Le service et le zèle sans la joie de l'esprit, qu'est-ce que c'est? Eh ben, ça donne tout simplement le caractère du pharisianisme. Voilà. Et là, c'est au mérite, hein, et ça renforce l'orgueil humain en disant, moi, j'y suis arrivé. Alors, toi, si tu y arrives pas, t'es vraiment peu de chose. Voilà. Quelle tristesse que le spectacle d'un squelette, qui est le témoignage finalement de la mort, quand la vie est partie, hein. C'est rien de plus déprimant et terrible, et on sait ce que ça veut dire. C'est qu'il n'y a pas la vie, quoi qu'il en soit. Alors, si nous ôtons à la parole de Dieu, donc, qui est appelée dans la Bible la parole de vie, ce qui fait tout son charme, c'est la grâce, c'est la miséricorde, c'est l'esprit de pardon, c'est l'invitation bienveillante et la compréhension. C'est ce que nous devons être, nous, dans notre position de chrétiens, d'abord dans le message évangélique, mais aussi entre nous. Parce que quand c'est le contraire qui se produit, il y a quelque chose qui ne va pas. Et on va en découvrir finalement, eh bien, tous les aspects un petit peu raboteux et aigus, en quelque sorte. Et alors, à ce moment-là, le message que nous portons, le témoignage chrétien que nous portons, va laisser apparaître comme un corps décharné qui repousse davantage qu'il n'attire, en quelque sorte. C'est pour ça que, et moi, je suis persuadé, finalement, des vertus et des principes supérieurs du Nouveau Testament, du message de Jésus-Christ. Parce que les gens ne s'y trompent pas. Quand les choses sont présentées avec cet esprit de pardon, à travers cette miséricorde, cet accueil, cette bienveillance, ben, ça change tout. Hein. Et les gens sont attirés. Regardez, les foules étaient attirées par Jésus parce qu'ils ne parlaient pas et ils ne vivaient pas comme les scribes et les pharisiens. Il disait qu'ils étaient étonnés de l'autorité qui caractérisait Jésus, parce que Jésus était rempli de compassion et il était rempli de bienveillance. Alors c'est sûr qu'il a eu des mailles à partir avec les pharisiens, parce qu'ils ne se retrouvaient pas avec le message de Jésus. Imaginez-vous, et on en a parlé il y a quelques semaines, quand j'ai fait la démonstration que Jésus était vraiment le plus grand de tous les révolutionnaires de tous les temps. Quand Jésus est arrivé et quand il est venu, c'est sûr qu'il a eu des ennemis. D'ailleurs, ces mêmes ennemis l'ont crucifié. Il fallait se débarrasser de lui. Il fallait l'évacuer. Il fallait l'éliminer, tout simplement. C'est ce qu'ils ont réussi à faire. Mais le plan de Dieu s'est manifesté quand même à travers tout ça. Et Jésus est venu pour, en quelque sorte, soulever la poussière dans l'institution, dans l'établissement judaïque. Ça leur a pas plu, hein. Naturellement, ils étaient toujours en contestation et en opposition avec Jésus. Donc, quand il n'y a que des commandements, quand il n'y a que des menaces, règles sur règles, des préceptes et tout ce que vous voulez, ben, je pense que, vous savez, les gens, ils n'ont pas envie d'entendre ça. Hein. Et je le rappelle, ce qui faisait la différence, c'est que Jésus avait un autre langage, une autre approche, et ce sont des foules et des foules qui s'approchaient de lui. Et je crois qu'il ne faut pas perdre de vue pour nous, dans notre démarche en tant que chrétiens, dans ce que nous proposons au monde autour de nous, c'est cet esprit-là, c'est l'esprit de l'Évangile, c'est l'esprit de la grâce, c'est l'esprit de pardon. Et ce n'est pas, quand je dis grâce et pardon, ce n'est pas quelque chose tout simplement béat. Non, je pense qu'il faut à ce moment-là savoir faire la différence, naturellement. Mais c'est pas quelque chose, des chrétiens, quelquefois on a dit, mais ce sont des éthérés, ils sont là entre le ciel et la terre, hein, ils sont plus au ciel que sur terre. Non, pas du tout. Un chrétien, c'est un homme réaliste. Et c'est un homme qui sait faire la différence entre le bien et le mal, entre toutes ces choses qui s'entremêlent et qui s'entrecroisent dans notre monde. Alors, le christianisme légal, je vais l'appeler comme ça si vous voulez, certes, il est solide et charpenté. Il donne l'impression finalement d'une institution qui ne bouge pas, comme le judaïsme, et comme il existe encore aujourd'hui, parce que rien n'a changé hein, dans le peuple d'Israël. Donc solide et charpenté, mais c'est froid. C'est quelque chose de froid, comme un squelette, si vous permettez, finalement. C'est distant, c'est hautain, c'est égocentrique, c'est privé d'émotions les plus naturelles, où la joie, ou même les peines sont étrangères. Parce que c'est comme ça, c'est la lettre, en quelque sorte. Et c'est bien dommage, parce que ce qui peut rester dans l'esprit des gens, eh bien, n'est que quelque chose qui leur donne l'impression d'un repoussoir, en quelque sorte. Oui, bien sûr, il y a des belles institutions religieuses. Bien sûr, il y a de la liturgie. Bien sûr, il y a cela. C'est intangible, ça ne bouge pas. Ça, c'est l'ossature. Mais les gens n'ont pas envie de ça. Ils ont envie d'amour. Ils ont envie qu'on les comprenne. Ils ont envie qu'on leur communique cela. Et si on n'a pas fait l'expérience nous-mêmes, on ne pourra jamais, finalement, communiquer ce message. Vous savez, quand dans le prophète Ésaïe, il nous est dit que Jésus était homme de douleur et habitué à la souffrance. C'est bien qu'il y avait quelque chose. C'est que non seulement, enfin, il les a appris par les choses qu'il a souffertes. Et nous-mêmes, si nous n'avons pas acquis ce principe de libération, ce principe de vérité, de liberté, qui nous est donné par Jésus-Christ, est-ce que nous pouvons dire que nous sommes chrétiens dans l'esprit évangélique? C'est ça la question. Toute la question est là. Alors, cette manifestation souvent très distante, parce que vous savez, les pharisiens n'attiraient pas grand monde. Hein. Oui, ils attiraient par contrainte. Ils obligeaient. C'était le temple, c'était la synagogue, c'était les dîmes, c'était toutes sortes, finalement, d'offrandes, de fêtes, non pas à Dieu, mais faites, eh bien là, à l'institution. mais qui n'avait rien à voir, hein, qui était enveloppé souvent de mesquinerie, de choses qui étaient faites jusque dans les moindres détails, et qui devenaient péché lorsqu'il y avait infraction en quelque sorte. Une machine utilitaire qui peu à peu transformait les hommes, ou transforme encore l'homme, supposé libéré par Christ. Il y a un grand danger dans nos églises, qui revient. C'est de retomber, après avoir commencé par l'esprit, de revenir par la chair. Ça, c'est tout le message de la lettre de Paul aux Galates. Oui. Vous avez bien commencé dans l'esprit de Dieu. Parce que c'est plus facile de gérer, finalement, peut-être une communauté, de gérer des hommes, lorsqu'on les contraint, lorsqu'il y a un régime quasi militaire, de dire faut faire ceci, faut pas faire cela, faut pas vous habiller comme ça, faut pas faire ceci ou cela. Ça, c'est plus facile. Il y a des règles. Et normalement, ça doit fonctionner tout seul. Mais ça fonctionne dans la crainte. Ça fonctionne pas dans la liberté. Que de dire aux gens, eh bien, maintenant, vous appartenez à Jésus, vous êtes né de nouveau, vous êtes rempli du Saint-Esprit, eh bien, laissez-vous conduire parce que ce n'est pas le pasteur votre guide, c'est Jésus. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Hein. Et là, notre responsabilité à chacun est engagée, et c'est plus difficile de gérer la liberté que de gérer la servitude. Peut-être. Moi, je crois. Oui, oui. J'ai quelquefois observé dans le ministère, et ça m'est arrivé de le dire, à certaines personnes qui ont traversé des moments très difficiles. Et dans ces moments difficiles, elles se sont tenues. Elles se sont accrochées au Seigneur parce que l'épreuve était là et elles criaient au Seigneur. Et puis il est arrivé un moment où il y a eu un bouleversement heureux dans leur vie, c'est-à-dire qu'elles sont passées dans une autre phase de liberté. Et j'ai souvent dit que la liberté est plus difficile à gérer que quelquefois des moments plus difficiles. Parce que dans la liberté, on peut oublier le Seigneur. On peut oublier beaucoup de choses. Et ça peut constituer un danger, tout cela. Alors, tout ça c'est dit, c'est pour finalement, eh bien, nous rappeler ces principes, hein, parce qu'il faut les mettre devant les gens. Moi, j'ai jamais eu l'habitude, ici et ailleurs, de prêcher autre chose que finalement la grâce et la liberté. Je suis d'accord avec la loi. Bien sûr, elle est là, elle était donnée, et qui peut dire, comme Paul le dira, mais la loi, elle est sainte, elle est juste, elle est parfaite. Mais il y a une autre dimension dans laquelle nous devons accéder. C'est pour la liberté que Christ vous a affranchi. Vous connaissez le texte? On l'a lu il y a un instant. Alors ne vous mettez pas sous un joug d'esclavage qui pourrait revenir dans votre vie en disant que c'est peut-être plus sain, c'est peut-être plus à plaire à Dieu, ceci et cela. Mais le Seigneur s'est conclu en Christ, c'est pas en nous. Et comme Jésus a été fait pour nous, ça c'est un point de doctrine à enseigner aussi, il a été fait pour nous justice, justification, sainteté et rédemption. 1 Corinthiens chapitre 1er. Chapitre 2, mais peu importe. C'est pour la liberté. Mes frères et sœurs, moi je voudrais vous dire que Christ vous a appelé pour la liberté. Et ne nous restreignons pas, ne réduisons pas notre vie à des choses qui finalement, eh bien, tout en pensant qu'elles sont bonnes et qu'elles sont bien, ne sauraient plaire à Dieu s'il n'y a pas la foi dans la grâce, dans sa grâce. C'est important. Donc, l'homme qui est supposé libéré par Christ, peut-être transformé par ses idées, par ses pensées, en un objet comme une dent impersonnelle dans un vaste engrenage qui tourne sans fin. Voilà. Et on ne s'épanouit pas. Il nous est dit que la loi est un état d'infantilité. C'est une préparation, comme on va à l'école primaire, comme ensuite on va dans des écoles supérieures pour atteindre un niveau de formation et de maturité, ou d'acquisition finalement de compétences ou de qualifications. La loi était un précepteur, et on enseigne la loi aux enfants, enfin aux enfants spirituels. Et ensuite, à un moment donné, il faut rentrer dans une autre dimension. Je le comprends que lorsque nous avons quelques mois, quelques années, voire même encore 10 ans de conversion, nous en sommes encore avec beaucoup de dualité et beaucoup de conflits à l'intérieur dans notre conscience. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle est la volonté de Dieu? Je le conçois. Mais après des années, c'est pas possible. Ouais. C'est comme si, par exemple, un homme de 50 ou 60 ans restait encore comme un adolescent. Ça peut arriver qu'il y en ait, hein. Mais normalement, nous devons avoir acquis par l'expérience de la vie, par finalement, hein, là, toutes sortes, hein, un épanouissement certains principes qui font que, bon, ben voilà, quelqu'un qui a un certain âge de maturité de vie, ben, il va pas se comporter comme un enfant. Alors, tout cela, ce sont des pensées, naturellement, que nous partageons. Je crois que ce légalisme-là dépersonnalise la vie. Et vous savez que Paul a été très rigoureux par rapport à ça. On a souvent présenté Paul comme un légaliste, comme quelqu'un qui était très affirmé. C'est vrai qu'il l'était, dans un certain sens. Mais quand vous lisez certaines lettres de Paul, vous verrez que c'était un homme qui a prêché la grâce de Dieu. Et il a prêché contre les fausses doctrines qui étaient enseignées pour restreindre la liberté des chrétiens. Il était même très catégorique. Et d'ailleurs, quand il pense à ce qu'il était auparavant, lui, pharisien, zélé au-delà de tous les autres, quand il regarde derrière lui, il se dit « Mais comment j'ai pu être comme ça ?» Et après, il nous parle avec des mots qui sont remplis de compassion et de tendresse, quand il nous dit « Mais je tremble pour les églises, d'amour, de compassion, et pour ceci et pour cela, pour ceux qui sont perdus, particulièrement pour son peuple Israël qui était resté en arrière. » Et ça fait 2000 ans qu'ils sont toujours en arrière avec la loi. Faut bien le reconnaître. Mais Dieu a fait grâce, hein, parce qu'il y a des juifs messianiques, hein, aujourd'hui, de plus en plus dans le monde, hein. Et ça, c'est formidable, hein. Ils ont découvert Jésus. Ça, c'est extraordinaire. Alors, c'est une dépersonnalisation de la vie. Alors, ça ne devient qu'une ossature dépouillée, une charpente vide, en quelque sorte. Paul le dira en lettres de feu. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Et nous qui sommes des chrétiens charismatiques, qui avons été baptisés du Saint-Esprit, est-ce que nous faisons l'impasse? Est-ce que nous pouvons nous faire l'impasse? Parce que le Saint-Esprit nous enseignera toutes choses. Il nous rappellera les paroles de Jésus. Et c'est pour la liberté, finalement, qui nous a été donné ce Saint-Esprit. Ah oui, la lettre tue, mais l'Esprit vivifie. Ce spectacle est hélas remarqué de nos jours, c'est vrai, dans le monde religieux en général. À travers ce formalisme qui vénère encore ces squelettes, excusez-moi, je voudrais choquer personne, en raison de leurs antiquités. Parce que on dit plus une religion est ancienne, plus voilà ceci et cela, oui. Monuments, liturgie, et puis tradition, rites, etc., et toutes sortes de choses. Mais tout est réglé à la lettre, hein, dans tout ça. Et on comprend qu'il y a des gens qui se détournent de la religion, du fait religieux. Parce que on s'aperçoit d'une chose, c'est que quelque part c'est toujours... C'est très dans un suivi de calendrier, en quelque sorte. Ça revient et ça n'intéresse plus personne. Il y a une désaffection depuis des années dans les religions, je veux dire. Hein, je ne veux pas parler pour nous, hein, mais bon, ça pourrait nous concerner. Mais les gens en ont quelquefois par-dessus la tête, hein, toujours la même chose et toujours les mêmes rites, etc., etc. Ça n'apporte rien. C'est religieux. Ça a un caractère peut-être moral. Et moi, je voudrais ajouter que l'évangile n'est pas du moralisme, mais l'évangile, c'est la vie. C'est quelque chose qui dynamise, quelque chose qui passe et qui souffle. Alors, ce monde religieux, formaliste, comme nous l'avons dit, est très attaché. Et faisons attention que nous ne tombions pas dans le même travers avec nos petites traditions évangéliques, avec nos petites façons de faire à nous, parce qu'on a pensé que c'était comme ça qu'on plaisait à Dieu. Mais Dieu ne se limite pas à finalement, eh bien, à des choses qui s'arrêtent. Mais Dieu va beaucoup plus loin que tout cela. Hein. Dieu n'est pas arrêté par quoi que ce soit. Si c'est le Dieu créateur dans l'univers entier, c'est que on va pas le mettre dans des petites boîtes, vous comprenez, en disant ben c'est comme ça, c'est ceci, c'est comme cela. Dieu est partout. Oui. Souvent on a essayé d'inculquer aux gens, eh bien si vous avez besoin de quelque chose, vous allez dans tel endroit parce que c'est un lieu soi-disant de pèlerinage et vous trouvez ceci et cela, mais le Seigneur est là au milieu de nous, hein, croyez. Ben, on lui a demandé cette semaine, moi je crois qu'il est là, non? Bon, ben je vois que vous l'avez demandé avec moi, je n'étais pas tout seul. Enfin, ça n'empêche pas que le Seigneur est là. Quoi qu'il en soit, le Seigneur est la vie, en quelque sorte. Il est la vie, finalement. La réelle valeur d'une ossature se révèle dans la mesure où elle supporte un organisme vivant. Vous comprenez ce que ça veut dire? Un organisme vivant est porteuse de vérité, sinon... Elle n'est plus qu'un sinistre vestige qui témoigne que la vie est partie depuis longtemps. Alors, on l'entend quelquefois, et je ne suis pas en train de faire de l'antithèse ce que vous voudrez primaire, mais quelquefois les gens nous disent, mais quand on rentre dans une église, c'est froid, c'est sombre, il n'y a rien du tout, il n'y a pas... Voilà, quelque chose d'embarrassant. Moi, je sais que Enfin, j'y vais très rarement hein, dans ces lieux-là, mais quelquefois j'y suis bon, par contrainte ou par nécessité ou par déférence. Mais moi, c'est pas ma maison. Hein. Ouais, c'est pas ma maison parce qu'il semble que, voilà, on pourrait dire, comme quelqu'un l'a signalé, les monuments restent, mais l'esprit est parti. Hein. Alors un monument vide, qu'est-ce que vous voulez? Il y a peut-être une belle architecture, il y a peut-être quelque chose qui, voilà, qui peut, sur le plan des arts, interpeller. Mais ce que nous voulons et ce que nous avons besoin, c'est la vie. La vie du Seigneur, la vie de l'Esprit, ça c'est important. Mais sans la vie qui vient du Saint-Esprit, que reste-t-il? Servitude ou liberté? Ouais. Dans 2 Corinthiens chapitre 3, il nous est dit ceci. Or là où est l'Esprit du Seigneur, qu'est-ce que vous ajoutez? Là est la liberté. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Eh oui, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est ce qui nous est rapporté dans l'Évangile. Alors, et je voudrais marquer sur le fait suivant, parce que je voudrais m'adresser à vous ce matin. Et je crois qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. Et il y a des choses qui, véritablement, sont constatées. Moi, je le constate moi-même en tant que pasteur de cette église, c'est qu'il y a des avancées. Mais une chose qui est certaine, c'est que je vois encore, et nous pouvons voir, qu'il y a encore des chrétiens malheureux au milieu de nous. Malheureux, non pas par les fêtes de la vie, hein, par les vicissitudes de l'existence, parce que nous en avons tous. Hein. On aurait tous certainement à raconter une histoire ce matin de tout ce qui peut nous arriver, de tout ce qui nous est arrivé. Et on a vu la grâce de Dieu dans tout ça, naturellement. Mais des frères et sœurs qui sont profondément malheureux, recroquevillés, parce qu'ils n'ont pas osé croire, ou peut-être n'ont pas voulu dénoncer certaines choses qui pouvaient les mettre dans cette situation de restriction de vie. Enchaînés, peut-être. Timorés, certainement. Frustrés, oui. J'ai cité recroquevillés tout à l'heure. Asphyxié par la tyrannie de règles qu'ils se sont imposées à eux-mêmes, je dis bien à eux-mêmes, dans une lecture peut-être qui n'était pas tout à fait éclairée par le Saint-Esprit de la Bible. Alors, ça c'est quand même dommage, parce que nous sommes appelés à autre chose, tyrannie de règles, où leur conscience n'a pas été affranchie, où ils sont encore sous le poids d'une culpabilité pour des choses qui n'ont pas lieu. J'ai souvent vu des frères et des sœurs profondément malheureux s'accusant ou s'auto-accusant, se détruisant eux-mêmes dans des choses qui n'ont, des choses indifférentes de la vie. Et ils pensent que c'est péché. Ils pensent que c'est pas bon. Parce que finalement, eh bien là, il y a une exploitation quelquefois de notre compréhension, de notre conscience par l'adversaire. Parce que l'adversaire, figurez-vous, il nous accusera sur beaucoup de choses qui ne sont pas mal en soi, mais par contre, il nous dira rien quand nous faisons un péché, là, il va pas nous avertir. Continue comme ça. Il n'y a pas de problème. Et combien de fois nous avons vu des frères et des sœurs pleurer en disant « Mais je suis comme dans une prison. Ma conscience est d'une telle sensibilité, ma conscience est tellement, a tellement été labourée, elle est tellement malade, ma conscience. Elle est tellement abîmée, peut-être le mot, que je n'arrive pas à... Peut-être que d'autres leur font envie, en disant, mais moi, je vois ce frère, cette sœur, eh bien, il est épanoui, il est heureux. Ben, mes frères et sœurs, moi, je voudrais vous dire ce matin que le Seigneur est là pour vous aider. Et moi, je n'irai pas vous dire, eh bien, vous avez tort. Parce que c'est comme ça, et puis c'est tout. Mais vous pouvez, ne restez pas dans cette situation. Le Seigneur souffle de son esprit pour nous libérer. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Et moi, je voudrais et je souhaiterais que dans notre Église, il y ait véritablement plus de liberté dans la foi et dans la grâce. Ouais. Et que vous puissiez être heureux, épanouis. Et que nous puissions chanter de tout notre cœur et que nos cultes, ils puissent véritablement éclater en louange et en adoration le dimanche matin où nous n'aurions pas suffisamment de place les uns et les autres pour ouvrir notre bouche. Qu'est-ce que vous allez faire tout à l'heure? Après avoir entendu ce que vous avez entendu? Ouais. Parce que vous me souriez comme ça. C'est gentil. Je reçois votre, hein. Mais faites-le. Une vie où là, véritablement, nous bousculons pour pouvoir dire au Seigneur, mais merci Seigneur pour la liberté que tu m'as donnée. Merci pour la vie de l'Esprit, pour le baptême du Saint-Esprit, pour la joie d'avoir des frères et des sœurs. Nous sommes heureux. Mais nous sommes heureux parce que finalement ton amour répand dans nos cœurs l'amour pour les uns et pour les autres. La joie, fruit de l'esprit, la paix, fruit de l'esprit, la douceur, toutes ces choses qui sont des fruits de l'esprit. Pourquoi pas, naturellement? Alors, la tyrannie de la conscience, c'était bien le problème que connaissaient le livre, enfin, les chrétiens de Galate ou de Galatie, si vous aimez mieux. Paul leur dit, mais écoutez, c'est terrible, vous avez entendu quelque chose de formidable, vous avez cru à Jésus-Christ et maintenant, parce qu'il y en a quelques-uns qui sont passés là, des judaïsants, qui vous ont dit, mais croire en Jésus c'est bien, mais il faut croire aussi à Moïse, mais Moïse c'est la loi. La seule loi qui vaille au milieu de nous, c'est la loi de la liberté en Christ et par son esprit. C'est ça ce qui est important. Alors, il faut savoir que Dieu a donné une charpente, d'accord? À la vie spirituelle, l'écriture sainte, la loi, les principes, toutes ces règles. Et tout cela comporte un caractère rigide. Mais ce n'est pas pour nous accabler, quand on a bien compris le sens, c'est pour nous libérer. Moi, je conçois la loi comme une libération et non pas comme une prison. La même image. La charpente rigide que sont nos os dans notre corps ont une qualité libératrice de maintien et d'épanouissement et non l'inverse. Et non l'inverse. Non l'inverse. Parce que ça, c'est libérateur. Et il faut bien le comprendre. La pesanteur écrasante de la loi est avant tout un état d'esprit. Ouais. C'est une mentalité. Et cette mentalité, eh bien, le Saint-Esprit de Dieu, l'Esprit de Christ, doit nous changer cette mentalité. Ce n'est pas une mentalité religieuse que nous devons avoir. C'est une mentalité de l'Esprit de Christ, de l'Évangile. Et ça, c'est autre chose. Pour ne pas nous laisser enfermer dans quelque chose qui serait une voie sans issue. Et je l'ai dit tout à l'heure, j'ai cité le nom, ça s'appelle le légalisme, tout simplement, qui se caractérise par quelque chose de particulier dont le symptôme principal, c'est la crainte, la peur. Et il y a encore trop de frères et de sœurs qui ne vivent que dans la peur. Peur de Dieu. Peur d'un châtiment, peur d'une punition, parce que s'ils ne marchent pas droit, il va leur arriver quelque chose. Mais c'est ce que le monde religieux a toujours décrété, le père fouettard. Moi, je connais un autre nom. C'est pas le père fouettard, c'est le père céleste, notre père qui est aux cieux. Ça change tout, hein. Parce qu'avant, les juifs appelaient Jéhovah, Adonai, et puis Yahvé, et tout ce que vous voudrez. Tous les noms étaient déclinés hein, dans le caractère de Dieu, dans ses attributs, etc., etc. Mais Jésus, comment a-t-il présenté? La première des choses et la première prière qu'il a appris aux hommes, c'est notre Père qui est aux cieux. Notre Père, quelle intimité, quelle relation d'amour qu'il peut y avoir entre un père et un fils, enfin des parents et puis les enfants naturellement. La crainte, trop de crainte au milieu de nous, c'est vrai. Écoutez, si nous avions besoin peut-être d'avoir ce témoignage, eh bien nous allons aller le chercher dans 1 Jean chapitre 4 et au verset, je pense, 18, quand il est dit cette parole, tout simplement, « La crainte n'est pas dans l'amour. » Vous connaissez ça, hein? « Mais l'amour parfait bannit la crainte. Si j'aime, je n'ai plus peur, parce que j'ai une totale confiance. En qui j'ai mis ma foi? Car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. » Quelle dualité, quel combat, Seigneur! Qu'est-ce que je dois faire dans telle circonstance? Mais Seigneur, débarrasse-moi de mes peurs, de mes craintes. Vous savez que ça, c'est à l'origine du péché d'Adam. La première chose, le premier sentiment qu'il a ressenti après la faute, la désobéissance, c'est qu'il a eu peur, il s'est caché. Et ça, c'est viscéral. C'est resté dans l'humanité, hein. Et c'est terriblement ancré. La crainte et la culpabilité, c'est précisément ce qui empêche les cartilages, si vous permettez l'analogie, de l'ossature spirituelle de fonctionner normalement. C'est pour ça qu'il y a des rhumatismes. C'est pour ça qu'il y a de l'arthrose. Mais pas au niveau physique, au niveau spirituel. Trop de lois et pas assez de foi. Alors que finalement les choses doivent être le contraire. plus de foi, et là vous allez voir que la loi va prendre une dimension de libération à ce moment-là, naturellement. Et ça fait des inflammations douloureuses. C'est pour ça qu'il y a des crises, il y a des dualités, il y a toutes sortes de choses. Je dis bien inflammations douloureuses, finalement, de la vie spirituelle. Le mal, le remède, il nous est donné, il nous est dit que l'amour bannit la crainte. Ben oui. Que ces commandements ne sont pas pénibles quand on les comprend dans le bon sens. Et que cela, c'est la victoire de la foi. Et qu'est-ce qu'il nous est demandé? De nous abandonner entre les mains du Seigneur. Puisque Jésus a dit que tout était accompli, il l'a dit ou pas? Il l'a dit, alors moi je le crois. Je n'ai plus besoin de faire valoir quelque chose. Puisque je suis un pécheur, je suis perdu, mais il m'a justifié parce que je crois en lui. Tout simplement. L'abandon. Et aimer Dieu, c'est s'abandonner entre ses mains. C'est s'abandonner, se donner sans restriction et sans crainte. Je termine. La compréhension de ce principe est le secret de la vraie liberté. Une vie meilleure et plus riche, une vie chrétienne victorieuse et de plénitude. C'est pourquoi Paul martèlera, je crois, dans Corinthiens, il dira « Ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. » Parce que tous ceux qui veulent satisfaire la loi, ils nous disent « Mais vous êtes déchus de la grâce. » Moi, c'est une parole qui est terrible dans le Nouveau Testament. Vous vous rendez compte? Et Paul parle à des judaïsants, il parle à des religieux. Et les Galates étaient redevenus religieux après avoir commencé par l'Esprit. Et il dira « Mais vous savez que vous êtes déchus de la grâce. » Ce verbe qui est employé, ça veut dire qu'il y avait à l'origine une expérience avec Dieu, une expérience de foi, une expérience de vie spirituelle, mais la déchéance, c'est qu'ils étaient, mais ils ne le sont plus. Déchus de la grâce. Ne soyons pas comme cela, hein. Ne soyons pas comme les Galates, hein, parce que moi je crois que c'est quelque chose de terrible. Dieu a donné ses lois, non dans son intérêt, mais par amour pour nous. Et c'est pourquoi nous trouvons, et Jésus le dira, mais le sabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat. Vous comprenez la subtilité de ce que ça veut dire? C'est que les lois, même les lois que Dieu a données pour nous, elles ne sont pas faites pour plaire à Dieu, parce que Dieu est saint, mais elles ont été faites pour nous, et non pas le contraire, vous comprenez? Dans l'observation du sabbat, dans l'observation de tel rite, dans ceci et cela, mais on n'en sort plus, hein? On n'en sort plus dans tout ça. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. C'est pour nous, et non pas contre nous. C'est pourquoi sur les os, il y a de l'articulation, parce qu'autrement, ça serait raide, ça ne bougerait pas. Mais les articulations, les muscles, etc., ça donne la vie. Un squelette par lui-même, ça ne vaut rien. Mais quand il y a la vie, quand il y a tout ce qu'il faut autour, loi d'amour bien appliquée avec l'aide du Saint-Esprit, et c'est le gage d'une santé spirituelle. Oui, gage d'une santé spirituelle, et nous sommes appelés à avoir une bonne santé spirituelle, tout simplement, qui se manifeste dans la paix, dans la joie, dans l'unité, dans cet amour que nous partageons ensemble. Alors pourquoi le contraire? Pourquoi tant de tristesse au milieu de nous? Pourquoi la médiocrité? Pourquoi la servilité? Pourquoi la crainte et la peur? Ou rien de naturel? Rien n'est naturel et tout est forcé. Moi, je vous force à rien du tout, en tant que conducteur spirituel. Moi, je vous responsabilise. En considérant que vous êtes des adultes et que vous avez un maître, c'est Jésus. Et moi, je prie pour que vous, véritablement, vous alliez encore beaucoup plus loin dans ce domaine. Oui. C'est comme un père qui s'occuperait de ses enfants quand ils ont 40 ou 50 ans. Tu vas faire ceci, tu vas faire cela. Non, écoutez, la maturité spirituelle, c'est justement la liberté, en quelque sorte, dans nos choix. Mais si on a Jésus à côté de nous, c'est lui qui va nous conduire. Dernière chose, constatation de cette lettre dans les Galates, Paul dira « Vous courriez bien, mais qui vous a arrêté ?» Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. On ne retourne pas en arrière, frères et sœurs. On ne retourne pas à l'Ancien Testament dans sa rigidité, dans finalement sa vision étroite. On est dans le Nouveau Testament, faudra-t-il le dire et le dire encore. En d'autres termes, Paul pouvait lire quand il dit « Mais vous courriez bien, mais qui vous a arrêté ?» Ça veut dire, on peut le traduire de cette manière, vous vous êtes rouillé, vous vous êtes ankylosé par manque d'exercice de la foi. Si nous expérimentons la foi, si nous la mettons en pratique, ben vous allez voir, on va rester jeune et alerte. Hein. Ça, c'est sûr. Par une mauvaise compréhension, finalement, qui a fini, où le corps a fini par perdre sa souplesse et son élasticité, c'est-à-dire le mouvement de la vie. Vous savez, le grand danger pour nos églises, c'est qu'on perde le mouvement, finalement, de l'esprit. Et toutes les églises avant nous, parce que bon, il y en a eu, hein, de différentes appellations, différentes confessions, elles se sont calcifiées, elles se sont recroquevillées sur elles-mêmes, c'est vide et c'est mort, pourquoi? Parce qu'elles ont perdu finalement la dimension de la vie de l'esprit, puis la compréhension de la parole, quand on n'a pas évacué finalement la parole complètement. Ça, c'est bien possible. Là où le spirituel devient naturel, et moi ça je crois que c'est vraiment mon souhait, que notre vie spirituelle devienne quelque chose de naturel pour nous. Qu'on ne se pose plus mille et une questions, que nous cherchons midi à 14h pour savoir ceci et cela. Oh, le Seigneur ne nous a pas appelés à comprendre tout, il nous a appelés à lui faire confiance en tout. Et après on comprendra, tout simplement. Quand la loi de Dieu devient une ossature rouillée, il en résulte toujours des fractures. On appelle ça division, hein. Rébellion. À forcer dessus, parce que lorsqu'on force, eh bien ça finit, à un moment ou à un autre, ça finit par casser et on va immobiliser tout le corps. Pour ceux qui ont fait déjà l'expérience d'une fracture, par exemple, vous savez ce qu'il en est, hein. À force de forcer dessus, à force de vouloir, ce que Dieu ne nous demande pas d'abord, de vouloir forcer, alors certains n'avancent plus. Vouloir être plus royaliste que le roi, à quoi ça peut servir? La lettre tue et l'esprit vivifie. Et je ferai une conclusion sans commentaire. Et cette parole, nous allons la trouver dans Ézéchiel. Ça va vous donner une petite idée de ce que, finalement, eh bien, ce que Dieu est capable de faire. Ézéchiel chapitre 37, je lis ceci. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit, me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Vous connaissez? Il me fit passer auprès d'eux. Tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre? Ça, c'est notre espérance. Ces os pourront-ils revivre? Quand Jésus nous dit, mais je n'éteindrai pas le lumignon qui fume, comprenez? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces os. Ça, c'est l'esprit. Et dis-leur, os, ossements desséchés. Écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ses os. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Un esprit. Alors, je crois que l'esprit, il nous a été donné, gardons-le. Hein. Gardons-le, cet esprit. Veillons à toujours prendre la parole de Dieu et de la vivre avec l'huile du Saint-Esprit. Ouais. Elle restera vivante, elle restera tonifiante, elle restera épanouissante, elle restera exaltante. C'est ce que nous voulons, Seigneur, envoie ton esprit sur ton peuple maintenant. Délivre les frères et les sœurs qui sont là dans la culpabilité, la peur et la crainte. Maintenant, manifeste-toi, et c'est ce que nous allons faire. Je vais prier pour l'Église, nous allons prier ensemble, et nous allons demander à Dieu sa grâce, et nous allons le remercier aussi. Seigneur, je te rends grâce et je te remercie de ce que tu nous donnes. Encore une lumière, un éclairage particulier, à la travers, Seigneur, eh bien, cette forme parabolique, où tu nous montres, Seigneur, qu'il y a toujours une relation entre ce qui est naturel et ce qui est spirituel. Et tu l'as fait, Seigneur, à travers tous les messages de l'Évangile. Je te demande de visiter mes frères et mes sœurs, et je te demande de leur faire du bien, je te demande de les réconforter, de leur donner, Père éternel, eh bien, cette joie et cette paix qui vient du ciel. Je te demande qu'ils aient une bonne compréhension de ta parole, et que ce ne soient plus des esclaves, que ce ne soient plus des gens, des hommes, des femmes, des chrétiens dans la servitude, mais que ce soient des hommes libérés, parce que c'est pour la liberté que tu nous as affranchis. Maintenant, par ton esprit, je te demande de passer dans nos rangs, de passer dans nos vies, Seigneur, et de souffler, Seigneur, de ce souffle qui vient du ciel, parce que c'est toi, Seigneur, qui es capable de nous donner la vie et la vraie vie, et qu'ainsi, Seigneur, devant toi, nous puissions vraiment user de ta grâce. Oui, Seigneur, de cette faveur divine qui a été accomplie sur la croix du calvaire en Jésus-Christ. Mais je te demande également, Père éternel, que tu nous donnes, Seigneur, de pouvoir le vivre d'une manière pratique entre nous. Au nom de Jésus, manifeste-toi, révèle-toi, bénis ton peuple ce matin. Tu passes maintenant au milieu de nous et tu nous donnes, Seigneur, de comprendre ces leçons fondamentales qui sont celles, Seigneur, tout simplement, de l'Évangile de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Amen.